Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous revoici donc ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Lampedusa, Le Guépard. Les voitures avec les serviteurs, les enfants, Bendico, prirent le chemin du palais. Mais selon l'antique rite, les autres, avant de rentrer, devaient écouter un Te Deum à la cathédrale. Elle était d'ailleurs à deux pas. Et les nouveaux arrivés, poussiéreux mais imposants, s'y rendirent en cortège, suivis des autorités étincelantes mais humbles. En tête marchait Don Ciccio Ginestra, qui, en vertu du prestige de l'uniforme, se frayait un chemin dans la foule des passants. Ensuite venait le prince, pareil à un lion repu et paisible, la princesse à son bras. Derrière s'avançaient Tancrède et Conchetta. Elle retenait de douces larmes, toutes troublées par cette arrivée à l'église aux côtés de son cousin. Ce trouble ne fut pas atténué, tant s'en faut, par la forte pression que l'obligeant jeune homme exerçait sur son bras, à seule fin bien sûr de la diriger parmi les trous et les épluchures qui constellaient la rue. Le reste suivait en désordre. L'organiste s'était échappé à la course pour déposer Thérésina à la maison et se trouvait tenant à son poste au moment où le cortège entrait dans l'église. Les cloches ne cessaient pas de gronder et sur les maisons les inscriptions « Vive Garibaldi, vive le roi Victor, mort au roi Bourbon » tracées deux mois plus tôt par un pinceau maladroit pâlissaient et semblaient vouloir disparaître dans le mur. Les pétards crépitaient tandis que la procession montait les marches, et quand elle pénétra dans l'église, Don Ciccio Tomeo, arrivé hors d'haleine mais juste à temps, attaqua impétueusement « Aime-moi, Alfred !» La nef était bourrée de curieux qui se bousculaient entre les lourdes colonnes de marbre rouge. La famille Salina s'assit dans le chœur et pendant la brève cérémonie, Don Fabrice se montra magnifique à la foule. La princesse manqua se trouvait mal de chaleur et de fatigue. Et Tancrède, sous prétexte de chasser les mouches, effleura plus d'une fois la tête blonde de Conchetta. Tout se passa fort bien. Et après l'exhortation de Monseigneur Trottolino, les assistants s'inclinèrent devant l'autel, se dirigèrent vers la porte et sortirent sur la place écrasée de soleil. En bas des marches, les autorités prirent congé et la princesse à qui l'on avait chuchoté certaines dispositions invita pour le dîner de ce même soir le maire, l'archiprêtre et le notaire. L'archiprêtre, étant garçon par profession et le notaire par vocation, leur cas ne présentait pas de difficultés. Quant au maire, il reçut pour sa femme une invitation indécise. C'était une espèce de paysanne, fort belle, mais jugée par son mari lui-même imprésentable à bien des égards. Personne donc ne fut surpris en entendant Don Calogero déclarer qu'elle était souffrante. Mais l'étonnement fut grand quand il ajouta « Si leurs excellences le permettent, je viendrai avec ma fille Angélique, qui depuis un mois ne parle que du plaisir qu'elle aurait d'être présentée à la villa, maintenant qu'elle est grande. » Il reçut naturellement l'assentiment du prince, qui, ayant vu Tuméo regarder par-dessus l'épaule des autres, lui cria « Vous aussi, bien sûr, Don Ciccio, et amenez Teresina !» Il ajouta, tourné vers le reste de l'assemblée. « À 9 heures, après le repas, nous serons heureux de recevoir tous nos amis. » Donna Fugata commenta longuement ses dernières paroles. Le prince avait trouvé Donna Fugata semblable à elle-même. Donna Fugata jugea que le prince avait bien changé. Jamais, auparavant, il n'avait parlé de façon si cordiale. De ce moment, invisible, commença le déclin de son prestige. Le palais Salina était tout proche de l'église mère. Sa façade restreinte, avec 7 fenêtres sur la place, ne laissait pas supposer l'immensité des bâtiments qui s'étendaient par derrière, sur 200 mètres. Ces constructions étaient de styles divers, mais groupées harmonieusement autour de 3 vastes cours et donnaient sur un ample jardin. À l'entrée principale, sur la place, les voyageurs subirent de nouvelles manifestations de bienvenue. Don Onofrio Rotolo, l'intendant de la maison, ne participait pas aux cérémonies officielles. Formé à la rigide école de la princesse Caroline, il considérait le vulgus comme inexistant. Et pour lui, le prince n'était pas à Donna Fugata tant qu'il n'était pas entré dans son palais. Don Onofrio se tenait à 2 pas de la porte, tout petit, tout vieux, tout barbu, flanqué de sa femme, beaucoup plus jeune que lui et forte opulente, épaulée par les serviteurs et les 8 gardes qui portaient le guépard doré sur leurs casquettes et dans leurs mains 8 fusils dont l'innocuité n'était pas toujours certaine. « Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à leurs excellences dans leur demeure, et je leur remets le palais dans l'état exact où il a été laissé. » Don Onofrio Rotolo était une des rares personnes qu'estima le prince, et probablement la seule qui ne l'eût jamais volé. Son honnêteté confinait à la manie. On en donnait des exemples typiques, celui du verre de Rossolis, par exemple, que la princesse avait laissé à moitié plein au moment du départ et que l'on retrouva 1 an après à la même place. Son contenu évaporé et réduit en cristaux sucrés. On n'avait touché à rien. Car ceci est une partie infinitésimale du patrimoine princier et l'on ne doit pas le dissiper. Les compliments échangés avec Don Onofrio et Donna Maria, la princesse qui ne tenait que par les nerfs alla se coucher en hâte. Les jeunes filles étant crèdes coururent vers les ombres tièdes du jardin. Le prince et l'intendant entreprirent le tour du grand appartement. Tout était en ordre. Les tableaux, dans leur cadre pesant, étaient époustés. Les dorures des reliures anciennes luisaient de leur feu discret. Le haut soleil faisait briller les marbres gris autour de chaque porte. Rien n'avait changé depuis 50 ans. Après le tourbillon bruyant des discordes civiles, Don Fabrice se sentit rafraîchi, plein d'une sécurité sereine, et regarda presque tendrement Don Onofrio qui trottinait à ses côtés. Don Onofrio, vous êtes vraiment un de ces gnomes qui gardent les trésors. La reconnaissance que nous vous devons est grande. Une autre année, son sentiment aurait été le même, mais ses paroles ne lui seraient pas venues à la bouche. Don Onofrio le regarda, plein de gratitude et de surprise. « Je ne fais que mon devoir, Excellence. » et pour cacher son émotion, il se grattait l'oreille avec l'ongle démesuré de son petit doigt gauche. Ensuite, l'intendant fut soumis à la torture du thé. Don Fabrice en fit venir deux tasses, et Don Nofrio dut en avaler une, la mort dans l'âme. Après quoi, il se mit à faire la chronique de Donna Fugata. Deux semaines plus tôt, il avait renouvelé le loyer de la propriété d'Aquila à des conditions un peu moins bonnes que précédemment. Il avait dû affronter de lourdes dépenses pour la réparation des plafonds. Mais il avait en caisse à la disposition de son Excellence 3265 onces nettes de tout frais, de toute taxe et de son propre traitement. Puis vinrent les nouvelles du bourg qui tournaient autour du grand événement de l'année, la rapide ascension de Don Calogero Cedara. 6 mois plus tôt avait expiré le prêt qu'il avait accordé au baron Tumino, et il avait saisi les terres. Pour avoir prêté 1000 onces, il possédait maintenant une propriété qui en produisait 500 par an. En avril, il avait pu acquérir pour une bouchée de pain une salma de terrain, et dans ce terrain, il y avait une carrière de pierre fort recherchée qu'il se proposait d'exploiter. Enfin, il avait conclu des ventes de blé très avantageuses au moment de la panique et de la disette qui avait suivi le débarquement. La voix de Don Nofrio se fit pleine de rancœur. « J'ai fait le compte sur les doigts de la main. Les rentes de Don Calogero égaleront dans peu de temps celles de votre Excellence à Donna Fugata. » En même temps que sa richesse, croissait son influence politique. Il était devenu le chef des libéraux. Quand les élections auraient lieu, il était sûr de se voir député à Turin. Et quels grands airs ils prennent! Non pas tant lui d'ailleurs, car il est trop rusé, mais sa fille, par exemple, qui revient d'un collège de Florence et se promène dans les rues avec des jupes gonflées et des rubans de velours qui pentent de sa capeline. Le prince se taisait. La fille, oui. Cette Angélique qui viendrait ce soir pour le dîner. Il était curieux de la revoir, cette petite bergère endimanchée. Que rien n'eût changé, c'était inexact. Don Calogero, aussi riche que lui. Mais dans le fond, c'était prévu, il fallait bien payer. Le silence de son maître troubla Don Nofrio. Il s'imagina qu'il avait mécontenté le prince en lui rapportant les cancans du pays. « Excellence, j'ai fait préparer un bain, il doit être prêt maintenant. » Don Fabrice prit brusquement conscience de sa lassitude. Il était presque 3 heures, et pendant 9 heures, il avait roulé sous un soleil torride après une nuit pareille. Il se sentait plein de poussière, jusque dans les replis les plus cachés de son corps. « Merci, Don Nofrio, d'avoir pensé au bain. Merci pour tout le reste. Nous nous reverrons ce soir, au dîner. » Thank you.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Nous revoici ensemble pour la suite du roman de Lampedusa, Le Guépard. Le prince avait toujours veillé à ce que le premier dîner à Donna Fugata revêtît un caractère de solennité. Les enfants de moins de 15 ans ne mangeaient pas avec les grandes personnes, on servait des vins français, un punch à la romaine précédait le rôti, les domestiques étaient en perruque poudrée et en culotte. Ils ne transigeaient que sur un seul point, ils se présentaient sans habit pour ne pas embarrasser ses hôtes qui, évidemment, n'en possédaient pas. Ce soir-là, dans le salon dit de Léopold, la famille Salina attendait ses derniers invités. Sous les abat-jour recouverts de dentelles, les lampes à pétrole répandaient une lumière jaune, limitée. Les portraits équestres, démesurés, des Salina défunts n'étaient plus que des silhouettes imposantes et vagues, comme leurs souvenirs. Don Onofrio était déjà arrivé avec sa femme. L'archiprêtre était là également, portant une cape d'étoffe légère plissée à partir des épaules en signe de gala. Il informait la princesse des querelles du collège de Marie. Don Ciccio, l'organiste, était arrivé ensuite. Teresina était attachée au pied d'une table à l'office. Il rappelait au prince quelques coups fabuleux qu'ils avaient réussis ensemble dans les gorges de la Dragonara. Tout était calme comme à l'accoutumée quand François Paul, le fils de 16 ans, fit scandaleusement irruption dans le salon en criant « Papa, papa, Don Calogero est en train de monter l'escalier, il est en frac !» Tancred, qui était en train d'ensorceler la femme de Don Onofrio, évalua l'importance de la nouvelle une seconde avant les autres. En entendant le mot fatal, il ne put se retenir et éclata d'un rire convulsif. Mais le prince n'eut pas envie de rire. L'annonce de son fils lui fit, il faut le noter, une impression plus grande que le bulletin du débarquement à Marsala, un événement prévu, lointain, invisible. Maintenant, sensible comme il l'était aux présages et aux symboles, il contemplait la révolution qui montait l'escalier en cravate blanche et habit noir. Non seulement il avait cessé d'être le plus gros propriétaire de Donna Fugata, mais il se voyait encore contraint de recevoir en costume d'après-midi un invité qui se présentait en tenue de soirée. Sa gêne fut grande. Elle durait encore, tandis qu'il s'avançait mécaniquement vers la porte pour recevoir son hôte. Elle fut cependant bien allégée quand il le vit. Parfaitement justifiée en tant que manifestation politique, on pouvait cependant affirmer que comme réussite vestimentaire, le frac de Don Calogero était une catastrophe. Le drap en était très fin, le modèle récent, mais la coupe tout simplement monstrueuse. Le verbe londonien s'était maladroitement incarné en un artisan de Girgenti à qui s'était adressée la tenace avarice de Don Calogero. Les pointes des deux pans se redressaient vers le ciel en une muette supplication. Le vaste col était informe et, il faut l'avouer, bien que cela soit fort douloureux, les pieds du maire étaient chaussés de bottines à boutons. Don Calogero s'avança, sa main gantée tenue vers la princesse. Ma fille vous prie de l'excuser, elle n'était pas encore tout à fait prête. Votre Excellence sait comment sont les femmes en pareille occasion, dit-il, exprimant en termes presque dialectaux une pensée légère à la parisienne. Mais elle sera là dans un moment. Notre maison est à deux pas, comme vous savez. Le moment dura 5 minutes. Puis la porte s'ouvrit et Angélique entra. La première impression fut une surprise éblouie. Les Salinas restèrent le souffle court. Tancred sentit réellement le sang battre dans les veines de ses tempes. Sous le choc qu'ils reçurent devant cette beauté, les hommes furent incapables de remarquer, en l'analysant, les défauts qu'elle présentait. Et il y en avait. Nombreux furent ceux qui se montrèrent toujours incapables de cet examen critique. Elle était grande et bien faite, selon de généreux critères. Sa carnation devait posséder la saveur de la crème fraîche qu'elle évoquait, et sa bouche enfantine la saveur des fraises. Sous la masse de ses cheveux couleur de nuit enroulés en vagues suaves, ses yeux verts brillaient immobiles comme ceux des statues. Et comme eux, un peu cruels. Elle s'avançait lentement en faisant onduler son ample jupe blanche. Toute sa personne exprimait le calme invincible de la femme sûre de sa beauté. Ce n'est que plusieurs mois après qu'on l'apprit. Au moment de son entrée victorieuse, elle avait été sur le point de s'évanouir d'anxiété. Elle négligea le prince qui accourait vers elle, dépassa Tancred qui lui souriait éperdu. Et devant le fauteuil de la princesse, sa croupe admirable esquissa une légère révérence. Cette forme d'hommage inhabituelle en Sicile lui conféra un instant le charme fascinant de l'exotisme, renforçant celui de sa beauté locale. « Mon Angélique, je ne t'ai pas vue depuis si longtemps, mais tu as beaucoup changé, mais pas à ton détriment. » La princesse n'en croyait pas ses yeux. Elle se souvenait de la fillette de 13 ans, laide ronde et mal soignée qu'elle avait vue 4 ans auparavant, et n'arrivait pas à la retrouver dans la voluptueuse adolescente qui se tenait devant elle. Le prince, lui, n'avait pas de souvenirs à mettre au point, mais une série de prévisions à renverser. Le coup reçu par son orgueil devant le frac du père, se renouvelait devant la fille. Seulement cette fois, il ne s'agissait plus de drap noir, mais d'une peau mate et laiteuse, une peau bien taillée, elle et comment. En vieux cheval de bataille, il se sentit d'attaque quand résonna cette sonnerie de trompette qu'était pour lui la beauté féminine. Il se tourna vers la jeune fille avec le respect gracieux qu'il aurait eu pour parler à la duchesse de Bovino ou à la princesse de Lampedusa. C'est une chance pour nous, mademoiselle Angélique, de recevoir dans notre maison une fleur aussi belle. J'espère que nous aurons le plaisir de l'y revoir souvent. Merci, prince. Je vois que votre bonté pour moi est égale à celle dont vous avez toujours fait montre envers mon cher papa. » La voix était belle, basse, un peu trop étudiée peut-être. Le collège florentin avait effacé les traînantes intonations de l'accent girgentais. Tout ce qui restait de sicilien dans ses paroles était une certaine âpreté de consonne, qui du reste s'harmonisait parfaitement avec sa vénusté claire mais un peu lourde. On lui avait même appris à omettre l'excellence. Il y a malheureusement peu à dire de Tancrède après s'être fait présenter à Don Calogero, après avoir manœuvré le phare de son œil bleu, après avoir résisté avec peine au désir de baiser la main d'Angélique. Il était retourné auprès de Madame Rotolo et ne comprenait plus rien de ce qu'il entendait. Le père Pirone méditait dans un coin obscur. Il pensait aux saintes écritures qui, ce soir-là, ne se présentaient à son esprit que comme une succession de Dalila, de Judith et d'Esther. La porte centrale du salon s'ouvrit et le maître d'hôtel annonça que l'on pouvait passer à table. Le groupe hétérogène se dirigea vers la salle à manger. Le prince avait trop d'expérience pour offrir à des convives siciliens dans un bourg de l'intérieur un dîner qui commença par un potage. Et il enfreignait les règles de la grande cuisine d'autant plus facilement que ses propres goûts y trouvaient leur compte. Cependant, les personnalités de Donna Fugata avaient entendu courir certains bruits sur l'usage de vagues bouillons servis à l'étranger comme premier plat. Un peu de crainte palpitait en leur cœur au début de ces repas solennels. Ainsi, quand trois serviteurs verts, dorés et poudrés arrivèrent portant chacun une majestueuse timbale de macaroni dans un immense plat d'argent, il n'y eut que 4 convives sur 20 qui s'abstinrent de manifester leur joyeuse surprise. Le prince et la princesse, parce qu'ils étaient au courant, Angélique par affectation et Conchetta par manque d'appétit. Tous les autres, Tancrède compris, il faut bien l'avouer, manifestèrent leur soulagement après des accents divers qui allaient des grognements extatiques du notaire aux cris aigus de François Paul. D'un regard circulaire, plutôt menaçant, le prince interrompit immédiatement ces manifestations inconvenantes. Et voilà, nous avons terminé pour ce soir la lecture de ce roman de Lampedusa, Le Guépard, que nous retrouverons demain pour la suite. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.